La chose contraire à la loi d'Anton Tchekhov. Comme il rentrait de sa promenade du soir, l'assesseur de collège Migoniev s'arrêta devant un poteau de télégraphe et soupira profondément. C'était là que 8 jours avant, au même lieu, à l'heure de son retour, son ancienne servante Ania l'avait rejoint pour l'apostropher. « Attends un peu, je vais te faire un tel scandale que tu désapprendras vite à perdre d'innocentes jeunes filles. » « Je porterai le petit à ta porte, je me plaindrai à la justice et je dirai tout à ta femme. » Et en fin de compte, elle avait réclamé le dépôt dans une banque et à son nom de 5 000 roubles. Migoniev se rappelait tout cela. Il soupira. Et une fois encore, en proie au repentir, il se reprocha sa passion passagère qui lui valait tant de soucis et de souffrances. Après la promenade, Migoniev s'assit sur le perron de sa maison de campagne pour se reposer un peu. Il était juste 10 heures, et un coin de lune se montrait derrière les nuages. Il n'y avait personne dans la rue près des maisons de campagne. Les vieux étaient couchés et les jeunes se promenaient dans le bois. En cherchant dans ses poches une allumette pour allumer sa cigarette, Migoniev heurta du coude quelque chose de mou. Par désœuvrement, il regarda sous son coude et soudainement son visage se contracta d'effroi aussi violemment que s'il eût vu près de lui un serpent. Sur le perron, près de la porte, il y avait un paquet. Une chose de forme allongée était enveloppée dans une sorte de couture piquée, à en juger par le toucher. Un bout du paquet était entrouvert et l'assesseur de collège, ayant passé la main, eut la sensation de quelque chose d'humide et de tiède. Pris de terreur, il sursauta, se leva et regarda autour de lui comme un criminel qui cherche à fuir ses gardiens. « Elle l'a donc déposé là » fit-il à travers les dents avec colère, serrant les poings. « La voilà couchée ici, la chose contraire à la loi. Oh mon Dieu !» Il était immobilisé par la peur, la rage et la honte. Que faire maintenant? Que dirait sa femme si elle apprenait le scandale? Que diraient les collègues? Son Excellence lui taperait sans doute sur le ventre en raillant. « Mes compliments, hé hé! Vous avez des poils blancs, mais vous avez toujours le diable au corps. Vous êtes un polisson, Siméon Migoniev. » Tout le monde saurait son secret, et peut-être que les maires respectables lui fermeraient la porte au nez. Car les journaux publient le nom de ceux chez qui on dépose des enfants abandonnés, de sorte que toute la Russie apprendrait le nom modeste de Migoniev. La fenêtre du milieu de la maison de Migoniev était ouverte et l'on entendait très bien Anna Philippovna, sa femme, préparer la table pour le souper. Dans la cour, derrière la porte cochère, le concierge Ermolaï tirait des sons plaintifs de sa balalaïka. Que le petit vint à s'éveiller à geindre et le secret de Migoniev serait découvert. Cela le détermina à agir aussitôt. « Vite, vite » murmura-t-il. « Tout de suite, si je ne veux pas être vu, je le porterai ailleurs. » « Je le mettrai sur le perron d'un voisin. » Et Migoniev prit le paquet et doucement, posément, pour ne pas éveiller les soupçons, se mit à marcher. « Quelle situation » pensait-il, en essayant de se donner un air indifférent. « Un assesseur de collège avec un bambin dans la rue, mon Dieu. Si quelqu'un me voit et se doute de la chose, je suis perdu. Je vais le mettre ici. Non, attendons. Ici, il y a des fenêtres ouvertes et l'on regarde peut-être. Où vais-je le mettre? Ah, voici. » Je vais le porter sur le perron du commerçant Mielkin. Les Mielkin sont des gens riches et compatissants. Ils me sauront gré, peut-être, et ils élèveront l'enfant. Migoniev se décida donc à porter le bébé chez Mielkin, quoique sa maison se trouvât la plus éloignée du village, près de la rivière. « Pourvu qu'il ne crie pas et ne tombe pas du paquet, » songeait l'assesseur du collège. « Ah oui, merci de ce cadeau. Je porte là, sous le bras, comme une serviette, un homme vivant, avec une âme, avec des sentiments, un homme comme tout le monde. Si les Mielkin l'adoptent et l'élèvent, il deviendra peut-être quelqu'un, un professeur, un général, un écrivain, tout est possible. Maintenant je le porte sous le bras comme rien, et dans 30 ou 40 ans, qui sait, je serai peut-être obligé de le saluer comme mon supérieur. » Mais quand Migoniev s'engagea entre 2 longues palissades, dans une ruelle étroite et déserte, sous l'ombre noire des tilleuls, il eut tout à coup le sentiment qu'il faisait quelque chose de cruel et de criminel. « Et ça c'est lâche, au fond, » pensa-t-il. « Oui, c'est lâche, si lâche qu'il est impossible d'imaginer quelque chose de plus lâche. Pourquoi jetons-nous ce malheureux bambin de perron à perron? Est-ce de sa faute s'il est né? Et quel mal nous a-t-il fait? Nous sommes des lâches. Nous aimons glisser sur les traîneaux, et nous laissons aux petits enfants le soin de les traîner. Ah, si l'on approfondissait un peu cette musique, c'est moi qui ai fait la faute et c'est ce bambin qui la paiera d'une cruelle destinée. Je le déposerai chez Mielkin. Les Mielkin l'enverront à la maison d'éducation et là, il ne sera entouré que d'étrangers. Point de caresses, point d'amour, point de gâterie. Puis on le mettra chez quelques cordonniers. Il y apprendra à boire, à jurer, et n'y mangera que juste pour ne pas crever de faim. Lui, chez un cordonnier, lui qui est le fils d'un assesseur de collège, qui a le sang noble, lui qui est ma chair et mon sang. » Mygonieff sortit de l'ombre des tilleuls et, sur la route inondée de clair de lune, il dénoua le paquet pour regarder le petit. « Il dort, » chuchota-t-il. « Tiens, il a le nez légèrement courbé, ce coquin, le nez de son père. » Il dort, il ne se doute pas que son propre père le regarde. C'est un drame, mon ami. Eh bien, pardonne, pardonne, mon ami. C'est évidemment là ta destinée. L'assesseur de collège se mit à cligner des yeux et il sentit quelque chose comme des fourmis descendre le long de ses joues. Il enveloppa le bébé, le prit dans ses bras et continua sa route. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison de campagne de Mielkin, les questions sociales s'agitèrent dans la tête de Mygonieff, en même temps que les remords le piquaient au cœur. « Si j'étais un honnête homme, songeait-il, je me moquerais de tout ça, et ce bambin sur les bras, j'irai trouver Anna Philippovna, je m'agenouillerai devant elle et je dirais « Pardonne, c'est ma faute, déchire-moi, mais ne laissons pas périr ce petit innocent. Nous n'avons pas d'enfant, prenons celui-ci pour fils, élevons-le. » « Elle est bonne, ma femme. Elle consentirait sûrement, et j'aurai mon enfant chez moi, et... » Il s'approcha de la maison de Mielkin et s'arrêta indécis. Il se voyait dans son salon, lisant son journal, un gamin au nez recourbé près de lui, jouant avec les glands de sa robe de chambre. Mais en même temps, dans son imagination, se pressaient les collègues qui clignaient de l'œil et son Excellence qui pouffait en lui tapant sur le ventre. Et pourtant, dans son âme, à côté des remords cuisants, il y avait quelque chose de tendre, de chaud, de mélancolique. L'assesseur de collège déposa doucement le bébé sur une marche du perron et fit un geste d'adieu. Encore une fois, des fourmis commencèrent à descendre le long de ses joues. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Pardonne ton lâche de père, ne dis pas de mal de moi. » Il fit un pas en arrière, mais aussitôt il tout sauta résolument et dit « Eh, advienne que pourra, je m'en moque. Je le prendrai, que les gens disent ce qu'ils voudront. » Mygonieff prit l'enfant et d'un pas rapide se remit en route pour rentrer. « Qu'on dise ce qu'on voudra, » pensa-t-il. « Je vais m'agenouiller devant ma femme et lui dire « Anna Philippovna. » Elle est bonne, elle comprendra, et nous élèverons l'enfant. Si c'est un garçon, nous l'appellerons Vladimir. Si c'est une fille, Anna. Du moins, ce sera pour nous une consolation dans notre vieillesse. » Et il mit son dessein à exécution, pleurant, mourant de crainte et d'humilité, mais plein d'espoir et d'une joie vague, il entra dans sa maison, alla trouver sa femme et s'agenouilla devant elle. « Anna Philippovna, » fit-il en sanglotant et en mettant le bambin par terre, « ne m'envoie pas au supplice. Laisse-moi te dire un mot. C'est ma faute. C'est mon enfant. Tu te rappelles Anya, notre servante. C'est avec elle... Le diable m'avait séduit. » Et hors de lui de honte et de peur, sans attendre une réponse, il se leva rapidement et comme si on l'avait fouetté, il courut prendre un peu d'air. « J'attendrai ici qu'elle m'appelle, » se dit-il. « Il faut la laisser revenir à elle, réfléchir. » Le concierge Ermolaï passa avec sa balalaïka, le regarda et haussa les épaules. Une minute après, il repassa de nouveau et haussa encore les épaules. « En voilà une histoire, » murmura-t-il en souriant. « La blanchisseuse Aksinia est venue ici tout à l'heure, Sémion Mygonieff. La sotte a déposé son enfant ici sur le perron, et le temps qu'elle était chez moi, quelqu'un a emporté l'enfant. En voilà une histoire. »« Quoi? Qu'est-ce que tu dis là ?» criait de toutes ses forces Mygonieff. Ermolaï, qui s'expliquait à sa manière la colère de l'assesseur, se gratta la nuque et soupira. « Excusez, Sémion Mygonieff, mais c'est la saison des villégiatures, il est impossible de se passer de ça, c'est-à-dire des femmes. » Et regardant, les yeux écarquillés, furieusement étonnés de l'assesseur, il tout sauta un peu troublé et continua. « C'est une faute, certainement, mais qui faire? Vous m'avez défendu de laisser entrer des étrangères, mais où prendre des femmes connues? Avant, lorsqu'Anya était servante chez vous, je ne laissais pas entrer d'étrangères, puisque j'avais Anya, mais à présent, vous voyez vous-même, il n'y a pas moyen de se passer des étrangères. Du temps d'Anya, en effet, il n'y avait aucun désordre, puisque... Va-t'en, Borien! Cria Migoniev en frappant le sol du pied, et il entra dans sa maison. Anna Philippovna, étonnée et fâchée, était assise à la même place et ne quittait pas le bambin de ses yeux éplorés. « Allons, allons !» murmura Migoniev, pâle, en souriant d'un sourire forcé. « J'ai plaisanté. Cet enfant n'est pas à moi. Il est à la blanchisseuse, Aksinia. J'ai plaisanté. Va le porter au concierge. » Ainsi s'achève la chose contraire à la loi d'Anton Tchekhov.